Adem Simcha, comme nous sommes la fête de Sukkot, on dit Zman Simchatenu. Pour Pesach, on dit Zman Cherutenu, c'est l'époque de notre liberté. Shavuot, c'est Zman Matan Torotenu, la saison qu'on a reçu la Torah. Et Sukkot, Zman Simchatenu, c'est l'époque de notre joie. La joie tout court. Trois fois la Torah nous donne la mitzvah de Simcha pendant la fête de Sukkot. Enfin, on est joyeux. Pourquoi? C'est une époque de joie. C'est dans l'air du temps la joie de Sukkot. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? V'chag ha'asif b'tkufat ha'shana b'oz b'cha et ma'asecha min ha'sadeh. Chag, la fête, Haasif, de ramassage, Pitkufat Hashana, quand la change, Bos Pechait Maasecha Minasade, quand tu ramasses tes actions du champ. Ça veut dire quoi, tu ramasses tes actions du champ? On ramasse le céréal, les légumes, les dattes, les figues, les pommes. On ramasse, ça veut dire quoi? On ramasse les fruits de nos actions du champ. On ne ramasse pas les actions. Les actions, on a labouré pendant l'année. On a désherbé, on a arrosé, on a récolté. On ramasse les fruits de nos actions. Alors, si la Torah, elle avait voulu exprimer cela, elle aurait dû dire, « Bo'os pecha et prima asecha min hasade » quand tu ramasses les fruits de tes actions. Or, la Torah, elle a sauté sur le mot « prima asecha ». Le prix, le fruit, la Torah, elle a sauté. Elle dit « bos pechait ma asecha » quand tu ramasses tes actions. Mais on ne ramasse pas des actions dans le champ. Éventuellement, à la bourse, on peut ramasser des actions, mais pas dans le champ. Mais parce que la Torah veut nous faire une allusion. La fête n'est pas seulement pour ramasser les fruits de nos actions, pour ramasser le céréal et les fruits de l'arbre, mais on ramasse les actions. Ça veut dire quoi, ramasser les actions? Kadosh Baruch Hu dit, je vous invite à un rendez-vous à Yerushalayim au Beit HaMikdash, la fête de Sukkot, mais lo yira'u panai rekam, il ne faut pas venir avec les mains vides. On ne se présente pas comme ça au Beit HaMikdash les mains vides. Il faut apporter quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut apporter? Torah ou mitzvot ou ma'asim tovim. Il faut apporter des mitzvot. Toute l'année, tu fais des mitzvot. Vas-y, Sukkot, présente les mitzvot que tu as fait. Fais un joli bouquet de tes mitzvot, de tes actions. Alors, on ramasse les actions du champ. Les actions, on les ramasse. Et pourquoi du champ? Ça veut dire quoi, le champ? Quand Yitzhak Avinu, il a béni Yaakov, il a senti une bonne odeur qui sortait des habits de Yaakov. C'était les habits d'Adam Arishon. Rivka lui a mis les habits d'Adam Arishon. Alors Yitzhak, il a dit, « Re'ei re'ach béni, ke re'ach sadeh asher berchu Hashem. » Regarde, l'odeur de mon fils, c'est comme l'odeur du champ que Dieu a béni. Ça veut dire quoi? Le champ que Dieu il a béni, c'est le Gan Eden, c'est le champ que Dieu a béni. Et effectivement, Yaakov Avinu, il a dégagé une odeur de Gan Eden. Un juif, toute l'année, il doit investir dans sa part du Gan Eden. Kol Yisrael eshlem chelek l'olam haba. Chaque juif, il a sa part dans l'Olam Abba. Chacun, il a quatre coudées. Ou peut-être les gens de Neuilly, ils ont plus que quatre coudées. Ça dépend. Peut-être ils ont 260 mètres carrés dans leur appartement au Gan Eden. Alors, mais ce terrain au Gan Eden, il faut le cultiver. Le fait que c'est marqué ici dans le cadastre, ce n'est pas automatique. Il faut investir avec Torah, au mitzvot, au ma'asim tovim. Alors, tu cultives tes actions dans le champ. Be'ospecha et ma'asecha min ha'sadeh, tu ramasses tes actions que tu as investies dans ce champ, le champ que Dieu a béni, le champ qui après est prévu pour toi après les 120 ans. Mais dans la Torah, il existe un autre champ, pas que le champ que Dieu a béni. Et ils savent, Ish Yodea Tsaïd, Ish Sadeh, c'est un homme qui s'est chassé, c'est un homme du champ. Lui aussi avait la coutume d'aller se promener dans le champ. Mais chez lui, les actions n'étaient pas pour investir au Gan Eden. Lui, il a investi ailleurs. Où il a investi? Dans ce champ-là que la Torah raconte, un homme qui fait un péché avec un amourassa, qui basade, metza, tzaaka, nara, ve'el moshiala. Et ils savent ce jour-là, il est aussi au champ pour faire des bêtises. Un homme, il a la possibilité d'investir ses actions dans l'autre champ. Alors, à Kadesh Baruch Hu, il dit, il arrivera sous côte, je veux, boros pechait ma'asecha minasade. Vas-y, ramasse tes actions et présente-les chez moi. Alors, si l'homme, il a des actions à investir au Gan Eden, il peut les présenter. Si on a investi ailleurs, avec ça, on va se mettre au Yerushalayim. Ah, ça, on peut pas présenter ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, Hachem nous a donné Rosh Hashanah qui pour ces actions-là, tu te débarrasses. C'est des actions qui vont faire faillite. Il faut se débarrasser de ces actions. Ou encore mieux, on peut faire d'une sorte qu'on n'a pas obligé de se débarrasser. Si on fait Teshuva me'ahava parce qu'on aime Hachem, on peut transformer les Averot en mitzvot. Ah, si on transforme les Averot en mitzvot, ils vont devenir des mitzvot. Là, ils seront présentables au Beit HaMikdash. Donc la Torah nous raconte Be'ospecha et ma'asecha min ha'sadeh. Comme cette Kufat Hashana, l'année a changé. L'année, la nouvelle année, alors c'est Rosh Hashanah Kippour, t'as transformé tes avirot au mitzvot, prospecha, maintenant tu peux les ramasser, minasade, maintenant tout est bien investi dans le champ que Dieu a béni, tu les présentes, donc ça c'est la mitzvah de Simcha, ça c'est la première raison pourquoi on est joyeux. Mais la joie, Sukkot, il y a encore quelque chose. Sukkot, on verse de l'eau sur le Mizbeach. Il y a la mitzvah de Nisuch HaMaim. Toute l'année, chaque korban tzibur, le matin on fait un korban, l'après-midi on fait un korban. Le korban est accompagné avec du vin qu'on verse sur le Mizbeach. Pendant qu'on verse le vin sur le Mizbeach, il y a la chorale de Levim et on chante le Mizmor du jour. Pourquoi on chante pendant qu'on verse le vin? Parce qu'il y a une yesamach le bavenosh. Un homme qui boit du vin, ça lui donne la joie. Au Beit HaMikdash, quand on versait le vin, il y a une immense joie, une atmosphère de joie qui descend. Et ce moment-là, les Lévites me chantent. Et la Shira, ça réveille aussi la joie. Donc toute l'année, chaque jour, on verse le vin et on chante. Quand il arrive Sukkot, on ajoute, on ne verse pas que de l'eau, que du vin, on ajoute de l'eau aussi sur le Mizbeach. Ou shafte maim besason mimayne ha'yeshua. Vous allez puiser de l'eau de la source de la Yeshua, on verse sur le Mizbeach. Pendant qu'on verse sur le Mizbeach le jour du Sukkot, alors ça dansait, simchat bet sheva, une immense joie au Beit HaMikdash, vechol mi shelora simchat bet sheva, lora simcha meyamav. Celui qui n'a pas vu la joie, les danses, l'atmosphère de joie qui était au Beit HaMikdash pendant Simcha Beit Sheva, n'a jamais vu une joie dans sa vie. Ça, c'est très étonnant. On verse de l'eau et ça réveille la joie. Verser le vin, oui. On sait quand on boit du vin, il y a un samach le bevenosh. Mais Maïm, Yesamach Levevenosh, ce pasuk, on n'a pas encore entendu. Tu vois un verre d'eau que ça te donne la grande simcha, on n'a pas entendu. Or, la Mishnah nous dit, pas seulement l'eau que tu verses sur le Mizbeach réveille la simcha, mais c'est une telle simcha que toute la joie qui vient du vin, n'arrive pas à la cheville de cette simcha de verser de l'eau. Comment ça fonctionne? Mais le pshat, il est le jour de Sukkot, on chante un mizmor spécial pour Sukkot. Qui a fabriqué le mizmor lechvot Sukkot? L'am natseyach livnei korach mizmor. Pour le chef de l'orchestre, mizmor, on va chanter livnei korach, les enfants de korach. Kayal ta'arog alafi kemaim ken afshi ta'arog elecha Hashem. Comme une gazelle qui a soifé, elle cherche des flaques d'eau. Elle a besoin de se désaltérer, elle cherche des flaques d'eau. Ken nafshi ta'arog elecha Hashem. Ainsi mon âme désire ce même désir que la gazelle est là, mon âme te désire Hashem. Tzama nafshi lelukim lekel chai, matai avoy veirae pnei lukim. Mon âme a soif de toi, Dieu, qu'on pourrait déjà te voir. Qu'est-ce qu'il raconte ici les bnei Korach? Il parle de la soif. Le Ram avait de la soif, mais qui c'est les bnei Korach? Les bnei Korach, c'était les enfants de Korach. Korach, le grand rebelle contre Moshe, contre Dieu, qui voulait faire tomber Moshe Rabbeinu et tout. Alors, la terre, elle a ouvert sa bouche, et Korach et ses enfants sont tombés dans l'enfer. Yardou, Hem, Chaim, Sheola, ils sont descendus vivants dans le sol, dans le sous-sol, dans l'enfer, dans le lave de ce volcan. Mais le texte, il dit, Yardou, Chaim, vivants. Pas qu'ils sont morts et après ils sont tombés. Quand ils sont tombés, ils étaient vivants. Pourquoi la Torah nous dit qu'ils étaient vivants? Parce que quand ils se sont approchés de Hinnom, ils ont fait Teshuva. Et à Kadosh leur a fait une espèce de tunnel et ils ont pu monter. Les Bnei Korach Lometu, comme ça il dit le texte du Chumash, les Bnei Korach Lometu. Ils sont tombés, mais ils ne sont pas morts, ils sont sortis vivants. Ils ont frôlé l'enfer. Et ils ont resté vivants. Ils sont devenus de Baal et Tshuva. Quand ils sont devenus de Baal et Tshuva, ils ont fait ce mizmor. Kayal ta'arog alafi kemaim, comme une gazelle. Depuis une semaine, elle est dans le désert, elle cherche de l'eau. Elle ne peut plus. Elle est complètement désaltérée. Alors elle dit, mon âme cherche Dieu comme la gazelle cherche l'eau. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Pshat, il est comme ça. La Gemara nous dit dans Masechet Brachot, un jour, le fils de Rabban Gamliel était malade. Il avait, je ne sais pas, fièvre, 40 fièvres pendant deux semaines. Son corps était complètement desséché, complètement déshydraté. Alors, Rabbi Gamliel a envoyé deux chachamim chez Rabbi Hanina ben Dosa. C'est où, monsieur le rabbin, priez pour mon fils. Rabbi Hanina ben Dosa, il a vu, il vient chez lui, il est tout de suite monté au premier étage, il a prié, il est descendu. Il a dit, la personne que vous êtes venu pour que je prie pour lui, c'est bon, ça va aller. Ils ont dit, d'où vous savez, vous êtes prophète, vous êtes fils de prophète. Non, je ne suis pas prophète, je ne suis pas fils de prophète, mais j'ai une tradition. Quand la tfila coule bien dans ma bouche, je sais que Dieu l'a accepté. Très bien. Quelle heure, quel jour, quelle heure, et ils ont écrit sur un papier quand ça a été ce moment. Après, ils sont repartis chez Rabban Gamliel. Nous, comment il va votre fils? Ah, il va beaucoup mieux. À un moment, Khalsato Chama, le fièvre l'a quitté, et Sha'alanoumaïm, il nous a demandé de l'eau. Ils ont demandé, c'était quel jour et quelle heure. Il a dit, voilà, tel jour, telle heure, et ça correspondait au moment où Rabbi Hanina ben Dosa il a fait la tfila. Voici la Gemara. Qu'est-ce qu'on apprend de cette Gemara? Ce fils avait du fièvre, mais il n'a pas demandé de l'eau. C'est quand la fièvre est partie qu'il a demandé de l'eau. Comment ça fonctionne? Mais pourquoi il demande de l'eau? Parce qu'il est desséché. les déshydrater à cause de la fièvre. Alors il aurait dû demander l'eau plus tôt. Seulement, l'homme peut être tellement malade qu'il perd le sentiment de la soif. Il remarque même pas qu'il a soif. Il ne demande rien. Il est tellement malade, il ne demande plus rien. La fièvre est partie, il était en voie de guérison. Les sentiments sont revenus. Mais j'ai besoin de l'eau. Je suis en train de mourir. Il me manque de l'eau. Donnez-moi de l'eau. Ça, c'est au niveau physique. Les Bnei Korach, ils ont raconté ça au niveau de leur Neshama aussi. Quand ils étaient en état de rébellion, ils ont fait la guerre contre Moshe, ils ont fait la guerre contre Hachem. Ils ne savaient même pas à quel point leur âme est malade. Ils ne se sont même pas rendu compte qu'est-ce que leur âme vraiment cherche. Ils croyaient l'honneur de leur père, Moshe, Korach, ils sont en dispute. Nous, les enfants, nous avons une obligation. Nous désirons de défendre notre père. Ils n'ont même pas remarqué qu'est-ce que leur Neshama cherche. En se rapprochant de Gehinnom, là, ils se sont réveillés. Ils ont fait Teshuva. Une fois qu'ils ont fait Teshuva, ils ont dit, mais notre âme a soif de Dieu. En vérité, ce que nous cherchons de rencontrer Hachem. L'âme d'un juif, ce qu'il cherche, il cherche Dieu. Tant qu'il ne rencontre pas Dieu, l'âme n'est pas contente. Et si quelqu'un ne le sent pas tel, il n'est pas au courant, c'est qu'il a de la fièvre. Que son âme n'est pas encore... Il n'a pas encore ce sentiment. Ça, c'est l'âme natseach. Livnei korach mizmor. Kaayal ta'arog alafi kemaim ke nafshi ta'arog elech Hashem. Quand quelqu'un il marche une semaine dans le désert, 40 degrés, et n'a pas pu un verre d'eau, et tu lui donnes un verre d'eau. Est-ce qu'il a de la joie? Est-ce qu'on a besoin de lui donner de mahaya, de boucha, de biscuit pour qu'il sera joyeux? Mais pas du tout. Pas du tout. La boucha, c'est pour les gens qui ont bien mangé, qui ont bien bu, qui ont bien dormi et qui n'ont pas passé une semaine dans le désert sans boire. Eux, pour être joyeux, ils ont besoin de vin. Mais celui-là, il n'a pas besoin de vin. Donne-lui un peu d'eau, mais il n'y a pas une plus grande joie que ça. Ça, c'est ce qui s'est passé sous Sukkot. Qu'est-ce que ça veut dire sous Sukkot? On se réjouit quand on puisait de l'eau et on versait de l'eau sur le Mizbeach. Mais c'est quelle eau qu'on verse sur le Mizbeach? Quand il y avait lundi de Briat Olam, Akadosh il a séparé le ciel de la terre. Okay, l'eau sur terre a pleuré. Et pourquoi il y a de l'eau qui se trouve au ciel? Et nous sommes séparés de Dieu. Akadosh Baruch Hu, il a dit, viendra le moment que vous allez servir Hachem. Le sel, on mettra sur le Mizbeach. Et l'eau, on versera aussi sur le Mizbeach. Cette eau représente toute cette eau du ciel, le rapprochement qu'Akadosh Baruch Hu, il fait avec les gens qui cherchent Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas une plus grande joie. Ceux qui n'ont pas vu cette joie, n'a jamais vu une joie dans sa vie. La joie de quelqu'un qui est loin d'Hachem et qui désire de rencontrer Hachem et à quel moment il arrive à son rencontre. C'est ça qui se passe sous côte. Quand on donne sur Beth Amikdash, quand on versait l'eau, quel était le texte qu'on disait? La mélodie n'est pas marquée dans la Gemara, c'est dommage. Mais le texte, il est oui marqué. Ashrei mishelo chata ou mishechata Yarzor b'tshuva v'yimchalo. Heureux celui qui n'a pas fauté. Et celui qui a fauté, qu'il fasse tshuva et Dieu lui pardonne. Ça, c'est le refrain. Ça, c'est le leitmotiv. Ça, c'est l'intérieur de ce que se disait pendant 7 nuits, chaque nuit 6 nuits de Sukkot, du soir jusqu'au matin, ont dansé. Et le sens de ces chants-là, heureux ceux qui n'ont pas fauté, heureux celui qui l'a fauté, qu'il fait teshuva, que Dieu lui pardonne, et son âme est de nouveau metoukane. La joie qu'Akadosh Baruch Hu nous a accepté le Kippour. On est content Sukkot. Pourquoi on est content? Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a acquittés. Parce qu'il nous compte de nouveau parmi ses serviteurs. Rosh Hashanah Kippour, les 3 jours, et on a réglé. Tout le monde connaît l'histoire. Un jour, il y avait un certain jeune homme à la prison en Égypte. Il y avait aussi 2 ministres. Vous avez entendu les 2 ministres égyptiens en prison? Vous avez lu dans... Hein? Il y a 2 ministres égyptiens, ils se sont fait jeter à la prison. Un est un pâtissier et l'autre était le chef des chansons. Et les 2, ils ont rêvé pendant la nuit. Ils étaient terrorisés. Chacun, il a rêvé. Un, il a rêvé de 3 croissants. L'autre, il a rêvé de 3 grappes de raisin. Ah, ils sont venus chez les garçons. Et pourquoi vous êtes si tourmentés? On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Il a dit, je vais vous dire, les trois paniers de pain, c'est 3 jours. Dans 3 jours, Paro, il va faire son anniversaire. Et il va rappeler tous ses serviteurs. Mais il y en a un de vous deux là qui va aller à la potence. Et l'autre, il va être réinséré parmi les serviteurs du roi. Ça, c'est les 3 jours au Rosh Hashanah Kippour. Il fait son anniversaire, l'anniversaire du monde. Et tout le monde, il est appelé à la barre. Il y en a des différents livres qui vont s'ouvrir. Il y a peut-être un, hein, il va aller à la potence. Et l'autre, il va être réinséré parmi les serviteurs d'Hachem. Ça, c'est la joie, Sukkot. Sukkot, on est réinséré, Yom Kippour. En vérité, qu'est-ce qu'on fait pendant Sukkot? On se met dans la soukha. C'est quoi la soukha? La soukha, c'est le souvenir de la nuée qui nous a entourés à la sortie d'Égypte. 15 Nissan, nous sommes sortis d'Égypte, on est parti de Ramsès à Sukkot. Une fois arrivé à Sukkot, la station Sukkot, pourquoi cet endroit s'appelle Sukkot? Parce qu'Hachem, Olech Lifnehem, Bamoud Anan, Lanchotam Aderech. Dieu marchait dans une nuée, Bamoud Anan, dans une colonne de nuée, Lanchotam Aderech, pour les guider. Kemor nous a enveloppés de tous les côtés avec une nuée. Cette nuée, le Shrach, la Soukha, représente cette nuée. Zechel Anané Akavod. Qu'est-ce que ça veut dire, HaKadosh Baruch Hu? Vahashem Holech Lifnehem Ba'amud Anan. Ça veut dire quoi? Dieu marchait dans une nuée. Pourquoi il marche dans une nuée? Oui, il y a des nuages, on sait. Ça veut dire quoi, HaKadosh Baruch Hu? Il est dans la nuée. C'est une expression qui est marquée souvent dans la Torah. Ou Kvod Hashem Nira Be'anan, chaque fois que Moshe Rabbeinu est rentré, parler avec Hashem dans le Ohel Moed, il y avait une colonne du feu à la porte. Ou Kvod Hashem, l'honneur de Dieu, Nira Be'anan, était visible dans l'Anan. Quand il y avait Matan Torah, eh bien, Kadesh Baruch Hu, il est descendu, Choshech, Anan va Arafel. Les Juifs ont vu le feu sur la Har Sinaï, c'est un immense feu. Mais entre les Juifs et ce feu, il y avait 3 filtres. Un filtre Choshech obscurité, un autre filtre Anan, un autre filtre Arafel. Ina nochi ba elecha be'av ve'anan. Je viendrai chez toi, Moshe, dans l'épaisseur du fumée de cet nuage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça représente quoi? Comme quelqu'un qui voudrait observer le soleil quand il y a une éclipse. Il ne faut pas regarder directement, ça va brûler les yeux. Il faut mettre quelque chose de noir. Le feu du Har Sinaï était tellement puissant, la voix du shofar était tellement puissante, ça aurait explosé leurs oreilles. Alors, il a mis des filtres. Choshech, Anan, va Arafel. Vayerad Hashem be'anan vayitatzev b'mosham. Après l'histoire de Vaudor, on a fait Chol HaMoed Sukkot, Chol HaShabbat, on a vu lui. Moshe Rabbeinu dit, Hareini na et kvodecha, je voudrais que tu me montres ton honneur. Hashem, il a dit, je veux bien te montrer. Je vais te montrer. Avir kol tovi al panecha, je vais montrer toute ma bonté. Mais pas comme ça. Vayerad Hashem be'anan, je vais descendre dans une nuée. C'est travers la nuée, tu vas entendre Hashem, Hashem, kel rachum v'chanun. Ça veut dire quoi? Pshat il est, Yom Kippour, on vient de faire la avoda. Le Kohen Gadol, il est rentré à Kodesh Kodashim. Alors le texte dit dans Chumash, Ki be'anan eira'e ala kaporet. C'est dans la nuée, be'anan, dans la nuée, eira'e, je serai vu au-dessus du kaporet. Ça veut dire quoi, Kadesh Baruch Hu, il sera vu? La Gemara raconte dans Masechet Yuma, Shimon HaTzadik était le Kohen Gadol pendant 40 ans. Chaque année, Yom Kippour, il est rentré. 40e année, quand il est sorti de Kodesh Kodashim, il a dit à sa famille, cette année, il va mourir. Ils ont demandé d'où vous savez. Il a dit, parce que chaque année, quand je suis rentré à Kodesh Kodashim, ils amènent les Aken, Echad, Lavush, Begadim, Levanim. Chaque année, quand je suis rentré, j'ai rencontré là-bas un homme habillé en blanc, un vieux habillé en blanc. Cette année, le vieux était habillé en noir, des habits de deuil. Donc, j'ai compris que c'est un signe que Shimon HaTzadik va partir. Il est mort après Sukkot. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a vu au Kodesh Kodeshim un vieux habillé en blanc. Mais qui c'est ce vieux? Qu'est-ce qu'il faisait ce vieux-là au Kodesh Kodeshim? Un homme. La Torah nous dit, Vechol Adam Loye Boel Moed. Aucun homme, il a droit d'être au El Moed quand le Kohen Gadol y rentre. Alors la Gemara demande, peut-être c'est un malach. Parce que le malach, aussi, Pneem que Pne Adam, la Gemara nous dit non. Les malachim doivent quitter le Kodesh Kodeshim pendant le rendez-vous de Shem avec le Kohen Gadol. Kol Adam lo yebo El Moed, Kol Adam, ça vient inclure les anges que Pneem Pne Adam. Donc ça ne peut pas être un malach. Donc le Rosh Hashanah dit, Kvod Hashchina, l'honneur de la Shchina, était comme le vieux en habit blanc. Ça veut dire quoi? C'est un langage, une métaphore. Lo irani Adam vachai. Un homme ne peut pas voir Hashem. Mais Akadesh Baruch Hu, il veut se rapprocher parfois aux gens. Mais on ne peut pas le voir. Mais on peut voir le Kvod Hashem. Ça veut dire quoi le Kvod Hashem? Imaginons-nous que M. Macron, il va venir à Neuilly. Ou le roi du Maroc. Quand le roi du Maroc, il vient à Casablanca, c'est encore mieux. Ils mettent carrément, ils enlèvent d'abord les poubelles. Après, ils mettent un tapis rouge. Et après, il y a des fleurs de tous les côtés. Après, il y a les motards et les chevaux et la carrosse en or et compagnie. Alors, tous les gens, ils regardent. Tout le monde veut voir le roi. Mais le roi, des fois, il est dans une carrosse fermée. Alors nous, on rentre à la maison, nous, alors t'as vu le roi? Le roi, je n'ai pas vu, mais j'ai vu l'honneur, j'ai vu les pipons-pimpons, j'ai vu les carrosses, j'ai vu les motards, 12 motards devant, j'ai vu l'honneur du roi. Alors le roi lui-même, on ne peut pas voir à Kadesh Baruch Hu, mais l'honneur, il y a quelque chose que les prophètes voient. Les juifs, pendant 40 ans, ils ont vu la Shrina, le Kvod Hashem, comme Yechezkel HaNavi. Yechezkel HaNavi, il a vu Maase Merkava, il est marqué, il a vu Kvod Dmut Hashem. Les Juifs, pendant 40 ans, ils ont vu Kvod Dmut Hashem. Zekeli Van Veyu. Nous ne savons pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais ça veut dire quelque chose de très haut. Ils étaient prophètes. Et à travers le nuage, ils ont vu quelque chose. Pas le roi lui-même, mais quelque chose qui savait que c'est divin. C'est quelque chose que Akadesh Baruch Hu, il a comme un roi, il a un habit spécial. Si tu ne vas pas le roi, tu as vu son habit, mais tu sais, cet habit ne peut appartenir qu'au roi. Il voit le Kvod Hashem, ça appartient à Hashem. Et ça, au Matan Torah, les Juifs, ils ont vu le Kvod Hashem derrière le Choshech Hanan va'Arafel, sur le Ohel Moed, il y avait Umare Kvod Hashem Nira Be'Anan. Et ça, c'est tous les 40 ans, les Juifs, ils étaient enveloppés. Ils regardaient Zekei Livan Veyu. Ra'at Hashif Hashabia Ma'ashelora Yecheskel Ben Bouzi. Les Juifs du désert, ils ont vu plus encore que le prophète Yecheskel. Ça, c'est ce que Shimon HaTzadik, il a vu quand il est rentré à Kodesh Kodeshim. Il savait qu'il est en présence d'Hachem. Soukot, nous sommes pendant 7 jours dans une soukha. Même que nous ne voyons pas, parce que nos lunettes ne sont pas bien réglées. Mais en vérité, la Shrina, elle est sur les Juifs. Et quand les Juifs sont sortis d'Égypte, la Shrina les a entourés, les a enveloppés. Et les nuages sont partis derrière les Juifs pour créer une séparation entre les Égyptiens et les Juifs. Qu'est-ce qu'on dit pendant Soukhot quand on est dans la Beth Amikdash et chez nous à la synagogue? On tourne autour de l'abîme. On dit « Ana Hashem Hashiyana » prend le lave « Ana Hashem Hashiyana » Sauve-nous à Kadesh Baruch Hu. Sauve-nous de qui? Quand un homme écrit « Sauve-moi », c'est qu'il est en danger. Soukhot, on est en danger, qu'on a besoin de crier « Sauve-nous » « Anive O Hashiyana ». Mais de quel danger il s'agit? On est dans la soukha pour nous protéger. Qui dit protéger? Est-ce qu'il y a un danger? Le danger à la sortie d'Égypte venait des Égyptiens. Paro, il était très généreux. Garesh et Garesh. Qui gorshu mi Mitzrayim ve lo yichlut mimea. Paro, il a dit, sortez, je ne veux plus vous voir. Vous partez. Je vous étais content, ils sont partis. Et le lendemain, Paro, il a changé d'avis. Mais on est fou, pourquoi on a renvoyé les Juifs? Il a mobilisé son armée, il a fait appel à son jugement qu'il a fait hier, il a couru derrière. Alors il a couru derrière, les Juifs étaient en danger, il a mis les nuages. Ça c'est ce qui se passe après Kippour. Qu'est-ce qui se passe après Kippour? Kippour, il a inscrit les Juifs dans le livre de la vie des Tzadikim. Mais il y a un problème. Il se peut, Chassé Shalom, qu'après Yom Kippour, le Satan, il fait appel au jugement. Parce que le Satan, il se prépare avant Rosh Hashanah, il dresse le bilan de toutes les petites choses-là qu'il peut accuser. Et à quel jour il dit, bon, tu peux parler. Quand, quel jour je peux parler? Bon, il arrive Rosh Hashanah, on sent le chauffard, le type, il est troublé. Après, il arrive Kippour, normalement, lui, là, il est aux vacances, Kippour. Le bon Dieu fixe le jugement le jour que le procureur de la République est aux vacances. Et si de loin, il remarque quelque chose, on lui donne le saïr l'azazel, on lui donne un os à gratter. Et et après, Yom Kippour, les Juifs, ils sont tous inscrits dans la ville. Le Satan, il arrive, il dit, vous m'avez roulé là dans la farine. Attendez, je n'ai même pas pu dire mon... Le chauffard m'a roulé. Kippour, j'ai pas eu accès à l'audience, au tribunal. Et vous m'avez roulé, je fais appel. Oh là là, le Satan, il veut faire appel. Ça peut être dangereux. Peut-être quelqu'un qui était inscrit dans le livre de la vie, comme ça, parce qu'on n'a pas bien vu son dossier. Ça, c'est Soukhot. Soukhot, c'est le moment où on demande à Hachem, Ana Hachem aussi, Ana. Hachem, protège-nous. Protège-nous. Et si on n'a pas d'avérot, c'est super bien. Et ceux qui ont fauté, eh bien, qu'ils fassent des chouvas. Tourne autour du Mizbeach. Autour du Mizbeach, pas seulement on tourne autour du Mizbeach avec des loulafs, on tourne aussi. Le septième jour de Soukhot, on tourne avec des haravot. Tous les 7 jours de Soukhot, on a installé autour du Mizbeach des haravot de 11 amot hauteur. On prenait des branches de 6 mètres hauteur. Et on tournait autour, c'était installé autour de Mizbeach. Halakha la Moshe Mesinaï. Je me suis toujours demandé, pourquoi des Haravot? La Harava, elle représente qui? On dit qu'il y a 4 espèces. Le Etrog, il a un bon goût. Il a une bonne odeur. Ça représente le Juif, qui est plein de Torah, de Mitzvot. Et le palmier, le Lulav, c'est le palmier. La date, il a un bon goût. Il n'y a pas d'odeur. Les hadassim, ils ont une bonne odeur. Non, pas de goût. Et la harava, il n'a ni goût, ni odeur. Ça représente les quatre espèces des juifs. Il y en a un qui a Torah et mitzvot, l'autre a Torah, son mitzvot, l'autre a mitzvot, son Torah. Et la harava, la pauvre, elle n'a ni Torah, son mitzvot. On met tous ensemble et on sert Hachem. Mais autour du Mizbeach, on met des haravot, et bien elle est bonne celle-là. La harava, la hamaret, c'est lui qui est en première ligne. Et celui qui est autour du Mizbeach, qu'est-ce que... Quel est le sens? Bon, on peut dire comme ça à titre de, pas vraiment un pshat, mais il y a une petite histoire, une petite anecdote dans la Gemara. Quand il tombe Shabbat, alors il faut cueillir les haravot Erev Shabbat. Alors la Gemara nous raconte, un jour, on a cueilli les grandes haravot, là des 11 amot hauteur, Erev Shabbat, on les a amenés au Beit HaMikdash. Pour les installer, Shabbat, on les mettait autour du Mizbeach. Mais à de Beit HaMikdash, il y avait des casse-pieds, on les appelait les Baitoussim. Des juifs libéraux. Ils cassent les pieds, là où ils peuvent casser les pieds au rabbin, ils le font, ils ne ratent pas une occasion. Ils ont dit, comme la mitzvah d'installer des haravot n'est pas marquée dans la Torah, on le fait que par allusion, que Mishpatam, même Yud, même, par une allusion, Halakha la Moshe Mishinaï. C'est pas marqué dans le Torah, les rabbins, ils ont inventé une histoire, et on va leur casser les pieds. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des pierres, ils ont mis sur les haravot. Les pierres sont mouktsés. Les rabbins sont religieux, ils ne peuvent pas enlever les pierres. Et comme ça, demain, il n'y aura pas des haravot. Comme ça, 1-0 pour eux. Voilà, comme ça, ils ont espéré. Mais le 1-0, ça ne marchait pas comme ça. Il y avait des amaratsim chez les juifs. Ils ont dit, quoi, il y a des pierres sur les haravot? Probablement, c'est les rabbins, probablement, ils ont fait ça. Donc, ça veut dire, c'est pas mouktsé. Ils ne savaient pas que c'est mouktsé, les pierres. Ils ont enlevé les pierres, ils ont pris les haravot, on les a installées. Donc, ces amaratsim, c'était des bons juifs qui écoutaient les chachamim, mais ils ne connaissaient pas tous les halachot. Mais ils ont neutralisé ces malins des baitoussim. Donc, ils ont un shrout, un amaretz. Grâce au fait qu'il ne sait pas, il peut être des fois utile. Bon, ça c'est pour l'anecdote. Mais, c'est aussi vrai. Mais, la harava, elle est autour du Mizbeach. Le Mizbeach, c'est quoi le Mizbeach? C'est l'endroit où on a fait la Akeda de Yitzhak. La Akeda, ça veut dire qu'Yitzhak, il était prêt à mourir le Chvod Hashem. Le Mizbeach, c'est l'endroit de Messirut Nefesh. La Maharetz, il doit se mettre devant le Mizbeach. Avec Messirut Nefesh, on peut gagner tout. On avait fait Yom Kippour l'histoire de Yona. Yona était dans le bateau. Le bateau était dans la tempête. Tous les marins, ils ont prié, chacun priait son Dieu. Yona, il a pris sa couverture. Et il a bu un bon thé à la... Une... Comment on appelle ça? Ouais, pour dormir. Une tisane. Il a descendu, il a dormi. Le capitaine, il vient dire, monsieur, tout le monde prie son Dieu, priez aussi votre Dieu. Mais il dit, pas de question, moi je ne prie pas mon Dieu. Hein. Il dit, mais attendez, mais il y a une tempête, on risque de couler. Il me dit, vous le prenez, vous me jetez dans l'eau et vous n'allez pas couler. Mais pourquoi? Parce que c'est à cause de moi cette histoire, je connais très bien. Je sais, si le bon Dieu veut m'attraper moi, et bien, en fait, je vais me jeter dans l'eau et vous allez être calme. Et moi, on s'en fiche. Mais il est bizarre, ce Yona. Mais le capitaine, il avait raison. Mais priez votre Dieu que Dieu fait arrêter la tempête. Non, moi, je ne prie pas. Pourquoi vous ne priez pas? Pourquoi vous ne priez pas? Vous ne croyez pas en Dieu? Ah, je crois en Dieu, je suis un prophète. Dieu m'a parlé. Ah, vous êtes religieux? Et j'espère, j'essaye. Et alors, priez à Dieu? Non, je ne prie pas. Mais si vous ne priez pas, on va couler. Vous n'allez pas couler, jetez-moi, vous n'allez pas couler. Mais vous allez mourir. Alors, priez, pourquoi vous voulez mourir? Non, moi, je ne prie pas. Il est un peu bizarre, c'est, on a quand même. Mais il préférait de mourir. Il préférait de mourir et pas prier. Et pourquoi il ne veut pas prier? Parce qu'il avait peur que s'il va prier, Dieu va l'écouter. Et s'il va l'écouter, la tempête va s'arrêter. Et lui, il va sortir vivant de l'histoire. Et il sera obligé de partir à Nineveh, ce qu'il ne voulait pas. Et pourquoi il ne voulait pas? Parce que s'il va parler à Nineveh, ils vont faire Teshuvah. Et si les goyim vont faire Teshuvah, peut-être au ciel, ils vont dire, hey, les goyim, ils ont fait Teshuvah, et les juifs ne font pas Teshuvah. Moi, je ne veux pas qu'on parle mal des juifs. Il ne faut pas qu'au ciel, on parle mal des juifs. Alors, quelle solution que j'ai? Il ne faut pas que les gens de Nineveh font Teshuvah. Et alors, maintenant, il y a la tempête. Eh bien, il y a la tempête. Et je peux l'arrêter avec la prière, mais je ne veux pas l'arrêter. Il préfère de mourir pour pas qu'on parle mal des juifs. Ça, c'est ce qu'un juif doit savoir. Mieux vaut mourir pour pas faire un quitrouc sur le peuple juif. Faut pas parler mal du peuple juif. Faut pas prononcer des mots pas bien. Ça, c'est rien du Mizbeach. Cette semaine, on va lire Zot HaBracha. Dans Zot HaBracha, il y a toutes les bénédictions. Et pour Binyamin, ou les Binyamin Amar, Yedid Hashem, Ishkon Lavet Echalav. Binyamin, c'est l'ami de Dieu. Ishkon Lavet Echalav. Sur lui, Dieu réside tranquillement. Ou il, Ben Ketefav Shachen. C'est qu'est-ce qu'il a reçu Binyamin comme bénédiction? Que le Mizbeach, il est dans son héritage, dans sa part. Tout Yerushalayim appartenait à la tribu de Yehuda. Le Beth Amikdash était à la tribu de Yehuda, mais le Mizbeach, c'est pour Binyamin. Mais il a fait quoi ce Binyamin pour être tellement charmé qu'il reçoit le Mizbeach? Il a fait quoi de grandiose? D'accord, il n'a pas vendu ses frères. Il n'a pas vendu Yosef. Il n'était pas dans la mêlée entre Yosef et ses frères. Très bien, alors il n'a pas péché. Bon. Chacun que les gens sont contents de lui, c'est une preuve que Dieu il est content de lui. Un homme que les gens ne sont pas contents de lui, Dieu aussi n'est pas content parce qu'il ne sait pas se débrouiller. Alors, Binyamin, tout le monde était bien avec lui. Tous les frères étaient bien avec lui. Il a dit d'Hachem, c'est l'ami de Dieu, Dieu il est content parce qu'aucun des frères a quelque chose contre lui. Oui, mais pourquoi il a reçu le Mizbeach? En vérité, Mizbeach, Binyamin, il a fait quelque chose de grandiose. Tout le monde se rappelle l'histoire. Quand les frères sont venus la deuxième fois avec Binyamin chez Yosef, Yosef a organisé un grand festin. Pendant ce festin, il les a placés. Il les a placés à Habchor qui prorato, à Hatzaïr qui tsirato. Voyez, mou, Ishel Rehu. Voyez, tu veux, Ishkeruimo. Il a mis Bechor, le premier qui prorato, va tirer le jeune qui tsirato. Toi, Rouven, tu es le Bechor. Tu t'installes ici. Et d'où il sait comment je m'appelle? Et d'où il sait que, comment il sait que je suis le Bechor? Mais c'est le vice-roi d'Égypte, mais il doit. Il n'est pas censé de connaître le secret de notre famille. Vaitmo. Toi, Shimon, le deuxième. Toi, le Lévi, troisième, quatrième. Et le petit Binyamin, celui-là n'a pas de maman. Moi aussi, je n'ai pas de maman. Alors, tu te mets à côté de moi. Les frères, ils étaient étonnés. Mais il fait quoi, celui-là? Il dit, je regarde la coupe. Il avait une coupe. Un gavia. Menachesh, Menachesh, Ishashakamoni. Cette coupe-là, elle me dit que toi, tu es Rouven, Shimon, Lévi, et lui, le Benjamin. Je vois tout à travers cette coupe, coupe magique. Qu'est-ce qu'il joue? À quoi il joue ici, Yosef? Et pourquoi il voulait que Benjamin sera à côté de lui? Vaishtu, vaishkeru imo. Et ils ont bu du vin, ils étaient tous chicors. Mais Yosef ne buvait plus du vin. On dit dans Zot HaBracha, Nezirechav. Il n'a plus bu du vin. Les frères n'ont plus bu du vin depuis qu'ils ont vendu Yosef. Et ici, tout le monde, il a bu, tout le monde, il se saoulait. Qu'est-ce qui se passe dans ce festin? Bon, que Yosef, il présente la coupe, je comprends, parce qu'il voulait leur donner envie de le voler. Pour après les accuser, vous avez volé la coupe. Donc, il a mis en scène. Et pourquoi il a bu du vin? Pourquoi eux, ils ont bu? Eux, ils ont bu parce que lui, il a bu. Donc il se fait ce semblant, il boit aussi, pour que lui continue à boire, parce qu'il voulait faire sortir le secret de lui. Ils ont dit, s'il va être sous ce monsieur, on va lui poser des questions. Quand il est sous, il va peut-être dévoiler qui c'est, qu'est-ce qui se cache. Ce monsieur, il était étonnant, ce monsieur. Mais pourquoi Yosef, il voulait que Binyamin, il est à côté? Il dit le Midrash, Yosef, il a préparé un plan grandiose. Moi, je mettrai la coupe dans le sac de Binyamin. Et après, je vais l'accuser. Et après, je dirai que Binyamin sera chez moi esclave. Et après, je voudrais voir la réaction des frères, si ils vont le laisser tomber, ce Binyamin, ou ils vont le défendre. Ils voulaient pousser les frères au bout. Mais il y a un grand danger de mettre la coupe dans le sac de Binyamin. Pourquoi c'est un danger? C'est un danger de mort pour Binyamin. Pourquoi c'est un danger de mort? Chut! Quand Yosef, il a couru derrière les frères, Menaché, il a couru derrière les frères, il a dit, voyons que vous êtes, pourquoi vous avez volé la coupe? Je dis, mais nous, on n'a pas volé la coupe. Il a dit, oui, vous avez eu volé la coupe. Alors les frères, ils ont dit, Et asher matzeh gvia beyado yumat. Celui qui en trouve la coupe dans son sac, il mourra. Il y a 10 frères, ils ont décidé un psak halakha. Celui qui en trouve dans son sac la coupe, qu'il mourra. Dit tzadikim, ils font un cherem, ils condamnent à mort quelqu'un. Et Yaakov Avinu, il avait dit, à Lavan, celui qu'on trouve des teraphim chez lui mourra. Et Rachel les avait, et Rachel elle est morte. Yaakov il dit, ce qui a c'est meurt, eh bien on meurt. Les 10 frères, ils ont dit, si quelqu'un de nous il a volé cette coupe, eh bien qu'il meurt. Et Yosef, il prépare de mettre la coupe dans le sac de Binyamin. Et si les frères ils vont dire, il risque de mourir Binyamin. Et les frères, sans le prononcer, ils peuvent se jeter tout de suite sur Binyamin. Toi, t'as volé la coupe, comme ta mère a volé chez son père. T'as volé la coupe, on te massacre, tu nous mets en danger. Tu savais que c'est Yosef, c'est un fou furieux contre notre famille. Et maintenant, tu voles la coupe, tu nous mets en danger. Ils peuvent se jeter directement, le tuer. Donc Yosef, il a dit, je ne peux pas jouer ce jeu si Binyamin n'est pas d'accord. Alors, il faut que je dévoile à Binyamin que je suis Yosef. Mais comment je peux lui raconter que je suis Yosef sans que les frères y soient au courant? Donc, il a mis à côté de lui. Après, c'est marqué, il a donné 5 fois plus de cadeaux à Binyamin qu'aux autres. Donc, à chacun, il a apporté des bonbons, hein, des Simchat Torah, et des cacahuètes et des sushis. À lui, il a apporté 5 sushis. Alors, chaque fois, il est allé. Je suis Yosef. Oui, oui, oui. Je vais faire un coup. Et je vais te mettre la coupe. T'as compris? Ils étaient chicors, ils ont tellement bu, ils n'ont pas bien. Et lui, il a fait passer le secret. Et Binyamin, il a capté. C'est Yosef. Ah, il va faire jouer un tour avec la coupe. Il a demandé la permission à Binyamin. Et Binyamin s'est truqué dans la tête. C'est qui tout double? Maintenant, on va jouer jusqu'au bout. Yosef, il veut pousser ses frères à faire teshuva. Il veut le pousser jusqu'au bout. Il a besoin que quelqu'un mette sa vie en danger. Il veut, moi, Binyamin, je mette ma vie en danger. Il était d'accord. Il a dit, Yosef, c'est bon, tu peux jouer avec moi. Et ils ont mis, il s'est mis en danger. Ça, c'est Messirut Nefesh. Ça, c'est ce qui a fait que Binyamin, il a reçu le Mizbeach. Mais la malédiction que les frères, ils ont dit, elle s'est réalisée. Les frères, ils ont Binyamin. Ce qu'on trouve, la coupe chez lui mourra, il mourra. Et Binyamin, il est mort. Il y a une histoire dans la Tanakh. Quand les Juifs sont rentrés en Eretz Israël, pratiquement 99% de la tribu de Binyamin était décimée par les autres Juifs. À cause d'une histoire avec une concubine, Begiv'a. Il y avait une hauteur, il y avait une petite montagne, il y avait Binyamin. Ils ont massacré. Le Batédénim, ils ont décidé que Binyamin doit mourir. Presque tout le monde, ils ont massacré. Là-bas, c'est marqué Pelek et Shbegiva. Giva, c'est écrit Gimel. Bet, Ain, He. Le même mot que Gavia. Pelek et Shbegiva, c'est pour faire une allusion que si la tribu de Binyamin après était décimée, parce que la malédiction des frères devrait se réaliser. Mais Binyamin était d'accord. Pourquoi? Parce qu'il faut rendre les Juifs Betchoua. Yosef et les frères, ils avaient fait un traloïde. Yosef a parlé à Shanara. Les frères, ils l'ont vendu. On est obligé de faire Teshuva. Et moi, je suis prêt à me mettre en danger. C'est pour ça, il était zoché les Mizbeach. Ça, c'est les Aravot qu'on met autour du Mizbeach. La Aravot, c'est la Maharetz. Mais il faut qu'il sera en face de Mizbeach. Il faut qu'il se mette dans la tête. Moi, je suis prêt à donner ma vie pour Hachem. Ça, c'est un zhout extraordinaire. Même si Hachem, un juif, il n'a pas Torah en mitzvot, s'il est prêt à donner sa vie pour les autres, ça, c'est un grand zhout. Yona Hanavi, il a dit, moi, je préfère de mourir pour pas qu'on parle mal des juifs. Ça, c'est la grande mitzvah. On dit, Ana, Hachem, Oshi, Ana, sauve-nous, Hachem. Sauve-nous, Hachem, de Satan, il veut annuler ce qui était décidé, Yom Kippour, que le peuple juif, il est inscrit dans le livre de la vie. Sauve-nous pour qu'il ne fait pas appel. Et ça, le sauvetage, c'est rentrer, se rapprocher à la Shrina, se couvrir par le Srach. Mais en vérité, on ne demande pas à Hachem seulement de nous sauver. On dit avec l'Ulav, Ani Vahu Hoshiana. C'est quoi Ani Vahu? Ani c'est Aleph Nun Yud. Vahu c'est Vav Hei Vav. Rashi Tosso t'explique. Le sens il est Ani Betoch HaGola Vahu Asur Bazikim. Le mot Ani Vahu représente Hachem. Hachem quand il est en exil. Il n'y a pas que les Juifs qui sont en exil. Dieu aussi est en exil. Ça veut dire quoi? Les Juifs sont en exil, ça veut dire qu'ils n'ont pas l'honneur qu'ils méritent. Ils ne sont pas encouragés comme ils auraient dû être encouragés. Ils ont des problèmes. Mais il n'y a pas que les Juifs, Hachem aussi. Il est aussi en exil. Lui aussi n'est pas respecté comme il faut. Le monde ne donne pas le respect à Hachem comme il aurait mérité. Mais Hachem, s'il veut, il peut se dévaler et récupère son kavod tout de suite. Mais il a juré au peuple juif, je ne me dévoile qu'au moment où je peux aussi vous faire sortir de l'exil. Il a attaché son destin au destin du peuple juif. Le jour que je pourrai vous sortir de l'exil et vous redonner la place que vous méritez, ce jour-là, moi aussi, je me dévoile. Et le monde dont tu vas dire... Viendra le moment que quoi? Tout le monde va savoir qu'Hachem il est. Mais il a dit, je ne le fais pour moi, comment que je peux le faire pour vous? Quand on dit, le peuple juif demande, sauf toi-même de l'exil. La tfila, la ikar tfila d'un juif, c'est pour l'honneur d'Hachem. C'est pour toi qu'on prie. Et lui, il prie pour nous. Et nous, nous prions pour lui. On prie pour nous aussi. Mais notre destin est attaché à son destin. On demande qu'Hachem... Il nous délivre, qu'il se délivre lui-même, et automatiquement, il se délivre nous aussi. Et ça c'est la grande joie de Sukkot, qu'on est proche de lui, et que les tfilotes de Sukkot, ils sont acceptés au ciel. Encore une minute. On fait 7 jours de Sukkot. Sukkot, Yishvu Shivat Yamim. Mais quand on est dans la soukha, on est le jour ou la nuit aussi? Le jour, la nuit. Non, mais la Torah le dit, soukot et shivat yamim, peut-être yamim velo lelot. Quand on dit, on prend le loulaf. Ou la, chut, quand il est marqué, ou la kartem lachem bayom harishon. Vous allez prendre le loulaf bayom velo balayla. Il n'y a pas de mitzvah de loulaf la nuit. Parce que la Torah a dit, bayom, c'est bayom velo balayla. Alors, comment c'est marqué? Shabbat Yamim, Teshvu, Basukot. Basukot, Teshvu, Shiyotim. Peut-être c'est le jour et pas la nuit. Là, on nous dit non. Parce qu'on a un Xerach, Teshvu, Teshvu, de Yemei Hamiloim. Aaron et les enfants, ils étaient pendant 7 jours devant le Oel Moed, pendant avant l'inauguration du Mishkan. Teishvu yomam valaila. Donc teishvu, teishvu xerashava. Comme Aaron et les enfants, ils attendent 7 jours et nuits à la porte du Mishkan avant l'inauguration. Comme ça, les Juifs sont aussi dans le Sukkot. Ça veut dire cette halakha que les Sukkot, on est jour et nuit, on l'apprend d'Ishivat Yemei Hamiloim par un xerashava. Mais un xerashava, c'est pas simplement quelque chose de technique. C'est pas un moyen technique pour connaître une halakha seulement. Quand la Torah fait un xerashava, c'est pour livrer l'essence de tel sujet pour l'amener ici. C'est la pnimiut, c'est l'intérieur de cette mitzvah sera transféré dans cette mitzvah. C'est-à-dire que la Gemara veut nous dire que le sens de 7 jours de Sukkot, c'est le sens de Aaron et les enfants, ils sont 7 jours, ils attendent l'inauguration. Vahi, bayom hashmini. C'était l'inauguration du Mishkan. Pour nous dire les 7 jours de Sukkot, nous attendons le 8e jour. Le Simchat Torah, le Shmini Atzeret, ça c'est l'inauguration où la Shrina descend sur le peuple juif. Comme le 8e jour, l'inauguration du Mishkan. Et comme recevoir la Shrina, il fallait 7 jours. Et cette nuit, Aaron et les enfants se préparaient. Comme ça, nous nous préparons pendant les 7 jours de Sukkot pour recevoir après la Hasharat HaShechina qui viendra Be'ezrat Hashem, Shmini Atzeret. Chag Sameach.